Bonjour, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Rémy Monnac, qui est officier de marine et amiral, qui a fait donc toute sa carrière dans la marine nationale et qui s'est intéressé très fortement à Trafalgar. Alors pourquoi cet intérêt sur une bataille qui ne nous a pas été foncièrement...
pas très favorable,
favorable, c'est le moins qu'on puisse
dire. Voilà. Eh bien, c'est assez logiquement la suite des travaux antérieurs que j'avais entrepris, puisque j'avais écrit avant une biographie de l'amiral Latouche-Tréville, et l'amiral Latouche-Tréville est mort en 1804, alors qu'il commandait l'escadre qui va être la partie principale des forces françaises de Trafalgar. Et cette mort par maladie sur son bateau à Toulon a eu des conséquences très, très lourdes, puisque l'amiral qui l'a remplacé n'avait pas du tout le même charisme que Latouche-Tréville, et le moral de cette escadre s'est effondré rapidement. Donc c'était un peu la suite de l'histoire que j'avais commencé à raconter, que j'avais envie de voir, d'autant plus que Trafalgar, pour nous, c'est un tabou épouvantable dans la marine française. Et j'avais été élevé dans cette habitude de ne jamais citer Trafalgar, ou si on le fait de manière tout à fait ironique, ah oui, c'est là où on a tué Nelson, ou bien en rappelant les exploits des bateaux français qui se sont très bien battus, mais sans prendre en compte l'ensemble de la bataille. Et il me semblait qu'il y avait là une lacune qu'il fallait combler.
Pourquoi Trafalgar a une telle image en France, puisque c'est quand même pas la première bataille qu'on perd au niveau au national vis-à-vis des Anglais et autres. On en a perdu une autre bien avant. Pourquoi Trafalgar a un tel impact?
Oui, alors c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressé, cet impact de Trafalgar, puisque vous avez tout à fait raison, Trafalgar, c'est une défaite qui n'est pas plus extravagante, plus importante que d'autres, mais qui a eu des conséquences psychologiques infiniment supérieures aux autres, parce qu'elle arrive à un certain moment de notre histoire. C'est un drame particulièrement éprouvant, parce que Trafalgar est une défaite inutile. Il ne faut pas oublier que lorsque les flottes franco-espagnoles ont rencontré la flotte anglaise, Napoléon avait abandonné déjà depuis plusieurs semaines son grand dessein d'invasion de la Grande-Bretagne. Et donc, c'est pour une mission tout à fait secondaire que la flotte franco-espagnole appareille pour la Méditerranée, bataille inutile, qui est faite à la suite de fautes de commandement sur lesquelles on pourrait revenir de l'empereur, et sur un pari assez extravagant que Villeneuve, qui commande cette flotte, n'osera pas obéir aux ordres de l'empereur et n'appareillera pas de Cadix, et sera relevé à temps par le nouvel amiral qui a été mis à la tête de cette flotte. Donc, une bataille inutile, une bataille particulièrement tragique parce que les forces en présence sont très inégales et que la supériorité anglaise en manœuvre, en canon, en la manière de se servir des canons, est tellement écrasante que c'est le combat d'une équipe de première division contre une équipe de division amateur, donc c'est très inégal comme combat, donc très très meurtrier. Et cette défaite inutile va laisser des traces profondes dans la marine française. À partir de ce moment-là, les Français, qui jusque-là espéraient pouvoir toujours contester à l'Angleterre la primauté sur la mer, la maîtrise des mers, à ce moment-là, il y a une résignation qui s'installe dans la marine française, et on se résout à ne plus occuper que le second rang. Donc ça marque une très forte frontière psychologique. Il y a avant Trafalgar et après. Alors que la bataille elle-même n'a pas eu de conséquences immédiates, stratégiques immédiates. On est en 1805, les succès de l'Empire vont continuer encore 10 ans. Donc, sur le plan stratégique, il n'y a pas de grandes conséquences. Mais sur le plan psychologique, c'est très fort. Et pour nous, marins français, ça marque une frontière très, très nette.
Alors justement, comment se compose cette marine juste avant Trafalgar? Parce qu'on sait qu'il y a quand même le problème de la Révolution française. Même s'il y a des constructions qui sont importantes, les officiers ne sont plus là au moment de la Révolution. Il y en a beaucoup qui s'en vont. qui quitte les commandements pour partir en pays étranger, de peur de se faire guillotiner. Comment se passe finalement cette réorganisation sous Napoléon de la marine ?
Voilà, alors c'est tout ce que vous dites est tout à fait vrai. Il y a toute une série de faiblesses de cette marine qui sont liées en grande partie à la Révolution française, puisque, commençons par le personnel, effectivement, les trois quarts, sinon les quatre cinquièmes des officiers nobles sont partis très vite. Non pas qu'ils étaient tous hostiles à la Révolution, d'ailleurs, mais parce qu'il y avait une perte de confiance entre eux et les équipages, et que leur vie devenait absolument impossible sur les vaisseaux, donc ils ont été contraints à l'immigration. D'autres l'ont fait par idéologie, mais beaucoup l'ont fait simplement parce que la vie devenait impossible. Donc, les cadres les mieux formés sont partis, on les remplace comme on peut, notamment par beaucoup d'officiers de la marine marchande, qui peuvent être d'excellents marins, mais qui n'ont pas l'habitude du combat, de la tactique, de la coordination des forces. On fait des promotions internes, bien évidemment, et on arrive petit à petit à reconstituer un corps d'officiers, et ce corps d'officiers qui est en place à Trafalgar, quand on étudie de près les commandants de Trafalgar, par exemple, on s'aperçoit que ce sont des gens, sinon très brillants, du moins compétents, il n'y a pas de lacunes très importantes, ce sont des gens capables de combattre. Mais en revanche, sous leurs ordres, ce qui est tragique, c'est le manque d'équipage, de manque d'équipage qualifié, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque de la marine à voile, pour former un marin capable de monter à 50 mètres dans la mâture, de prendre un ris par mauvais temps sur une voile de cacatois, bon, ça demande des années d'expérience, et on ne peut pas les remplacer. Or, nous avons, contrairement aux Anglais, un stock de marins limité, de stock de gens de mer assez limité. Et les guerres de la Révolution durent depuis 1793, donc il y a déjà 12 ans de guerre quand on arrive à Trafalgar. Les gens ont été tués au combat, sont morts de maladies très très souvent. Il y a de terribles épidémies sur les bateaux, ont été prisonniers des Anglais, et ce stock a fondu. Notre marine de commerce a disparu quasiment de la mer, donc on ne forme plus de nouveaux marins. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est à partir de la marine de pêche et de la marine de commerce qu'on forme nos équipages à cette époque-là. Par la levée de ces équipages, on a un système d'inscription maritime très en avance sur les Anglais qui en sont toujours au système de la presse. Mais ce système, il a ses limites. Quand on a épuisé le stock, eh bien on est obligé de faire appel à des équipages de fortune et très, très largement aux gens de l'armée de terre sans formation maritime.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la presse, justement, la méthode anglaise ?
Alors, la méthode anglaise est une méthode d'une brutalité redoutable qui a marché tant bien que mal. Ça consiste tout simplement à faire sur la marine marchande anglaise ou sur les pêcheurs un prélèvement en envoyant des troupes armées dans les ports, dans les tavernes et de ramasser tous les marins qui s'y trouvent, de les emprisonner et de les contraindre à servir dans la Royal Navy comme sur un bagne. Et il y a une chose qui est très surprenante, c'est qu'un bateau anglais revenant de campagne n'envoie pas ses équipages à terre, on le laisse au mouillage devant une ville, et on envoie à bord des gens pour des marchands, des filles pour distraire l'équipage, etc. Mais les gens ne sont pas autorisés, restent prisonniers sur leur bateau, ce qui n'est pas le cas en France.
Pourquoi les Français ont autant de mal par rapport aux Anglais à mettre justement dans l'action leurs matelots ? Pourquoi ils ont autant de mal ? Pourquoi il y a autant d'attentes, je veux dire, au niveau des essais quand ils s'entraînent ? Est-ce qu'ils s'entraînent par rapport à la marine anglaise ? On sait que la marine anglaise s'entraîne énormément.
C'est un autre point très important que vous soulignez, c'est le genre de vie que mènent les escadres françaises et anglaises sont complètement différentes, puisque les Anglais sont maîtres de la mer depuis les grandes victoires qu'ils ont obtenues au cours de la Révolution. Donc ils ont leurs escadres à la mer, ils surveillent les nôtres devant les ports. Il y a une marine qui est à la mer, qui s'entraîne, qui devient de plus en plus performante, qui a l'habitude de la victoire en plus, qui est important. Et puis il y a une marine qui est la nôtre, qui est enfermée dans les ports et qui ne fait que des entraînements de routine au mouillage qui n'ont pas du tout la même valeur qu'un entraînement à la mer. Donc quand nous appareillons pour une mission comme les missions, la campagne de Trafalgar et la bataille de Trafalgar, ce sont des gens très sous-entraînés par rapport aux Anglais qui vont affronter une marine aguerrie et habituée à la mer. Alors c'est vrai pour les Français, c'est encore pire pour les Espagnols qui sont nos alliés à l'époque. Et il y a le phénomène extraordinaire de ces bateaux espagnols armés à Cadix qui apparaissent pour la première fois avec des équipages complètement improvisés, de mendiants et de pâtres, dit l'amiral Villeneuve, et qui vont, 48 heures après être sortis à la mer pour la première fois, être dans une fournaise épouvantable, dans un combat atroce, avec un mal de mer épouvantable aussi, dans des conditions de mer très difficiles. Donc c'est vraiment deux marines, comme je le disais, deux marines très différentes qui s'affrontent.
Oui, ça fait amateur finalement, hein, cette marine.
Oui, ça fait une marine improvisée. On a parlé donc du personnel, on a parlé du manque d'entraînement de ce personnel. On pourrait rajouter aussi les avantages britanniques sur le plan du matériel et notamment des canons, car dans cette bataille, les Anglais ont un très gros avantage, c'est qu'ils ont à bord de tout leur vaisseau un engin qu'on appelle la caronade, qui est un canon court, de gros calibre, capable de cracher sans aucune précision et sans grande portée, mais de manière terriblement dévastatrice, des flots de mitraille pour balayer un pont de l'ennemi et tuer et massacrer les équipages qui se trouvent sur ce pont, ravageant également les cordages et les voiles, donc des gréants. Et ça, Napoléon avait, pour une fois, parce qu'il est très mauvais dans la marine en général, mais là, il avait très bien vu l'intérêt de ces caronades. Il avait donné les ordres nécessaires pour qu'elles soient fabriquées et installées sur les bateaux. Les caronades existent à Trafalgar, mais elles sont encore à terre, n'ont pas été installées sur nos bateaux. Et dans le combat que va choisir Nelson, un combat de pêle-mêle, de bataille très rapprochée, les caronades vont donner un avantage décisif et expliquer en partie la différence considérable de pertes, ça va de 1 à 10, entre les Anglais et les Français et les Espagnols de l'autre côté.
Quel était le besoin d'aller à Trafalgar? Qu'est-ce qui a attiré les Français là-bas, en fait?
Alors, là, il faut replacer un petit peu l'idée de Napoléon initiale, qui est une idée assez géniale, le plan du 3 mars consistait à rassembler toutes les forces, à concentrer toutes les forces franco-espagnoles disponibles aux Antilles, en faisant appareiller une escadre de Toulon, une escadre de Brest, qui ralliait celle de Toulon, les Espagnols de Cadix, celle de Brest, les Espagnols du Ferrol. Il y avait déjà une escadre française qui se trouvait, celle de Rochefort qui se trouvait aux Antilles. Tout ce beau monde se regroupait, se concentrait à la Martinique, et le plus vite possible, foncer vers l'entrée de la Manche, avec une masse énorme de vaisseaux, et étant capable de balayer sur leur passage les escadres anglaises que Napoléon estimait dispersées par tous ces mouvements préliminaires, et on devait arriver devant Boulogne et permettre la traversée de la flottille chargée de transporter l'armée de terre, qui était une armée de 130 000 hommes, prête au camp de Boulogne. Mais tout ça a échoué complètement, pour toute une série de raisons. L'escadre de Brest n'a jamais pu appareiller, ni rallier donc les gens du Ferrol, parce que les ordres de Napoléon lui ordonnaient d'appareiller sans combattre, alors qu'il y avait devant elle une force ennemie. Donc la mission était totalement impossible. L'escadre de Rochefort, qui se trouvait aux Antilles, n'a pas pu être prévenu à temps d'y rester et rentrer à Rochefort. Il y a donc seule l'escadre de Toulon qui a pu débloquer quelques bateaux à Cadix, revenir vers les côtes. Alors là, on a changé les plans puisqu'on s'est aperçu qu'il ne fallait plus compter sur l'escadre de Brest. Et cette escadre dirigée par l'amiral de Villeneuve a réussi à débloquer effectivement les forces franco-espagnoles du Ferrol, s'est dirigée vers Brest un petit peu, mais a renoncé parce que l'amiral Villeneuve était très démoralisé et estimait que la mission, avec d'ailleurs pas mal de raisons de le faire, que la mission maintenant était impossible puisqu'il y avait tout effet de surprise avait disparu, les Anglais étaient regroupés à l'entrée de la Manche, etc. Et décide de rentrer à Cadix, où il arrive le 19 août 1805. Mais Napoléon ignore, quand il prend la décision d'abandonner le Grand Dessin, ignore que la flotte franco-espagnole a renoncé à se diriger vers la Manche. Donc il n'y a pas de liaison entre l'abandon de la mission par Villeneuve et la décision de l'empereur d'abandonner le camp de Boulogne et de filer vers la gloire d'Austerlitz avec la grande armée qui était prête. L'escadre franco-espagnole est donc regroupée à Cadix à la fin du mois d'août 1805. Elle va recevoir de nouveaux ordres, puisqu'on a renoncé maintenant au dessert en Angleterre. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, l'empereur décide de la faire rentrer de la faire rentrer en France, donc de passer le détroit de Gibraltar et d'entrer en Méditerranée pour des missions secondaires qui sont d'appuyer nos forces qui luttent dans le royaume de Naples à ce moment-là, et puis de regrouper à Toulon cette importante flotte. Puisque à Cadix, ça n'a plus d'intérêt d'avoir une énorme force à Cadix, très difficile d'ailleurs à alimenter, à ravitailler, avec des problèmes avec les Espagnols qui ne sont pas évidents à régler. Donc c'est une mission de rapatriement après l'échec de la campagne préliminaire de Trafalgar. Et alors, ce qui est extravagant dans cette affaire, c'est que Villeneuve a déplu dans la manière dont il a conduit la première partie de la campagne. Il y a eu, j'ai omis de dire qu'il y a, avant le déblocage du Ferrol, il y a eu un combat le 22 juillet, un combat qui est un peu un match nul entre une flotte anglaise et la flotte franco-espagnole. Un amiral plus vigoureux aurait pu obtenir un franc succès. Je pense que La Touche-Tréville aurait obtenu, lui, un franc succès dans un cas semblable. En plus, on a perdu deux vaisseaux espagnols, sont tombés dans les rangs de l'ennemi, dans la brume et sous le vent, ont été perdus sans qu'on puisse les secourir efficacement. Donc ça a été un poids important dans l'esprit des franco-espagnols. Ça a été une marque un peu désastreuse dans la mesure où la confiance entre les deux alliés s'est un peu affaiblie à ce moment-là. Et ça portait un coup très fort au moral de Villeneuve à cette époque-là. Donc Villeneuve a déplu à l'empereur pour le manque de vigueur, le manque d'initiative dont il a fait preuve pendant cette campagne. Et l'empereur a décidé de le remplacer. Mais au lieu de le remplacer, de lui écrire « Vous êtes remplacé à votre poste », il donne des ordres précis à son ministre en disant « Vous allez ordonner à l'amiral Villeneuve d'appareiller pour rentrer en France et vous lui donnez des ordres extrêmement vigoureux. Mais comme c'est un homme pusillanime, il n'appliquera pas ces ordres. Et parallèlement, vous désignez l'amiral de Rosilly pour prendre sa place et vous l'envoyez par la route, évidemment, à Cadix. Et par un phénomène, là, c'est les aléas extraordinaires de l'histoire. Il se trouve que l'amiral de Rosilly est un peu retardé. Il a une avarie de voiture, il y a un axe d'essieu de sa voiture qui casse. Il se trouve bloqué à Madrid. La rumeur de son arrivée à Madrid parvient à Cadix. Donc Villeneuve sait qu'il est remplacé, qu'il y a un amiral qui vient le remplacer. Comme il n'a pas été prévenu officiellement, il pense que c'est le ministre de la Marine n'a pas voulu le prévenir pour lui laisser une chance, qui est son ami, pour lui laisser une chance de se refaire une santé. Et il va saisir cette chance en appareillant à la première occasion pour montrer qu'il n'est pas le lâche que l'on a dit, mais c'est un homme courageux et capable de se battre. Et il va appareiller dans des conditions et accepter ce combat qui sera évidemment désastreux contre un ennemi qu'il sait beaucoup plus fort que lui. Parce que dès le début, Villeneuve, contrairement à La Touche-Tréville, qui avait hâte de se mesurer à son collègue Nelson, a une grande appréhension à lutter contre la flotte anglaise.
Alors justement, on voit dans vos écrits que vous avez une grande sympathie pour La Touche-Tréville et que vous restez un peu en arrière au niveau de Villeneuve. Villeneuve, qu'est-ce qu'il a ? Est-ce que c'est vraiment un lâche ?
C'est certainement pas un lâche. Villeneuve, c'est un homme très, très estimable à beaucoup de points de vue. Et je pense que c'est plus une victime qu'un coupable. Il n'aurait jamais eu à être désigné à ce poste-là. C'est un homme qui est très compétent dans son métier. C'est un homme qui a une lucidité extraordinaire, puisqu'il a parfaitement décrypté les méthodes anglaises. Et avant d'appareiller de Toulon, il donne un ordre, il écrit des instructions à ses capitaines en décrivant exactement ce que va être la bataille de Trafalgar. Les Anglais ne se contenteront pas de se mettre en ligne parallèle à la nôtre. Ils vont former des colonnes qui viendront accabler notre arrière-garde. Il décrit très exactement la manœuvre de Trafalgar. Donc il n'est pas du tout surpris. Mais comme c'est un homme extrêmement pessimiste et passif, c'est deux traits de caractère très, très évidents, il ne va pas être capable d'imaginer des contre-mesures pour s'opposer à cette tactique de Nelson qu'il connaît parfaitement.
Il n'a jamais cherché, justement, en connaissant les méthodes anglaises, il n'a jamais cherché à trouver, en dehors des combats, à trouver des parades, justement.
Justement, non, parce qu'il estime que c'est impossible. Il estime que les bateaux qu'il a sous ses ordres sont commandés par des gens très médiocres, ont des équipages très médiocres, et il ne s'attache pas à leur donner un entraînement suffisant. Il est tellement persuadé de son infériorité que tout ce qu'il trouve, il dit, mes bateaux sont juste capables de se tenir les uns derrière les autres en ligne de file, on va les mettre les plus serrés possible, et puis ils se battront le plus courageusement possible. Mais il n'invente pas de parade qu'on aurait pu inventer. On aurait pu imaginer de faire une escadre française des meilleurs bateaux, des meilleurs voiliers, des mieux commandés, faire la même chose avec les Espagnols et avec ces deux escadres, venir troubler le jeu de l'attaque de Nelson et avoir une ligne au lieu d'avoir une ligne immense de 33 vaisseaux assez ingouvernables, d'avoir une force principale plus limitée et ces deux atouts au vent de la force principale capable de venir contrarier Nelson, par exemple. Mais Villeneuve ne fait pas ce genre de raisonnement. Malgré, il y a un Espagnol qui est Gravina, il y a un amiral espagnol de grande qualité qui est là et qui a des idées et qui suggère un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas prises en compte, encore une fois, parce que le pessimisme de Villeneuve est tel qu'il n'imagine pas de pouvoir faire. Et d'autant plus qu'après la bataille du 22 juillet que j'évoquais, où on avait à ce moment-là une division espagnole séparée des forces françaises, tout le monde a dit, de manière à montrer la solidarité des Français et des Espagnols, il faut maintenant, dans nos lignes de file, dans nos divisions, alterner Français et Espagnols de manière systématique, de manière à concrétiser cette solidarité. Or, cette manière de faire affaiblit encore la puissance, la capacité de manœuvre et de combat de nos forces, puisque vous allez avoir des bateaux de nationalité étrangère qui ne se connaissent pas, qui se suivent et qui ne connaissent pas leurs caractéristiques, donc difficulté de manœuvre, difficulté de langage. À cette époque-là, on se parle au porte-voix de très près, donc on va avoir des difficultés à se comprendre. Et du coup, ça ancre Villeneuve dans son idée de ne rien tenter d'un petit peu compliqué, de s'en tenir aux manœuvres les plus élémentaires et les plus simples. Donc il se sent justifié dans cette approche. Et voilà. Et le grand étonnement des Anglais sera de rencontrer une résistance aussi forte, aussi puissante de la part des Français et même de certains Espagnols qui ont combattu avec une vigueur étonnante. Ils pensaient que tout le monde allait s'en aller et fuir devant leur colonne attaquant perpendiculaire à notre ligne. Ce qui n'a pas été du tout le cas. Donc il y a eu une résistance assez farouche. Malheureusement, comme on tirait très très mal et très lentement, les colonnes anglaises qui se présentaient dans une situation périlleuse pour elles, puisqu'il y avait une concentration de tir sur les premiers bateaux qui arrivaient sans qu'ils puissent riposter. Il y a pas un bateau de cette époque n'a pas de canon qui tire vers l'avant, et les canons tirent uniquement sur les côtés. Donc pendant une douzaine de minutes, il faut subir le tir adverse sans pouvoir riposter. Mais on tire tellement mal que les bateaux anglais arrivent avec quelques avaries, quelques pertes, mais pas suffisantes pour les désemparer et pour les empêcher de combattre efficacement. Donc finalement, la méthode de Nelson, que Villeneuve avait parfaitement prévu, va être complètement payante et permettre aux Anglais de fracasser par petits morceaux nos lignes et d'obtenir un succès complet au cours de cette bataille.
Alors, les Espagnols et les Français sont ensemble. Comment se gèrent les commandements des deux flottes? Est-ce que c'est Villeneuve qui chapeaute le tout? Comment ça se passe au niveau de ces deux pays?
Alors, Villeneuve a pris une solution extrêmement classique dans cette bataille. Il a formé un certain nombre de divisions. Il commande évidemment l'ensemble de la flotte à bord du Bucentaure. Et puis, il y a une avant-garde, une arrière-garde, un centre qui sont commandés par des amiraux français ou espagnols, selon leur rang. Et tout officier général espagnol ou français a droit à commander une division de bateaux, ce qui est assez théorique, sauf malheureusement pour l'avant-garde française qui est commandée par Dumanoir et qui, lui, aurait pu avoir une initiative heureuse en venant au secours, parce que les colonnes anglaises attaquent le centre et l'arrière-garde, donc l'avant-garde française est assez peu engagée au début, bien que Nelson s'arrange pour lui faire croire qu'elle est menacée. Mais l'amiral du manoir qui commande l'escadre française tarde énormément à venir au secours du centre, malgré les signaux que lui fait son amiral, et le fait trop tard et trop mal pour que ce soit efficace. Donc là, il y avait eu un sous-ordre qui aurait pu avoir un rôle important. Malheureusement, il ne l'a pas. Et les autres amiraux se comportent bien. Il y a l'amiral espagnol Gravina va être blessé et mourir de ses blessures quelque temps après. L'amiral français Magon va mourir au combat. Donc les autres amiraux se comportent tout à fait bien. Mais l'amiral du manoir est inférieur à sa tâche.
Quand l'amiral Nelson est tué pendant le combat, ça se situe quand par rapport au combat ?
Ça se situe dans le premier tiers du combat à peu près. Donc c'est au moment où le Victory qui est en tête de la première colonne anglaise aborde, se présente dans la ligne franco-espagnole. Il va se choisir un adversaire. Et ça va être cet adversaire du Victory, puisque c'est le Victory que monte Nelson, sera un vaisseau de 74 canons, donc beaucoup plus faible que le Victory qui en compte une centaine, mais qui est commandé par un homme extraordinaire, qui est le commandant Lucas, et c'est le Redoutable. Et le Redoutable, le combat du Redoutable contre le Victory est quelque chose d'extraordinaire. Là, les Anglais sont pleins d'admiration parce qu'on n'a pas d'exemple dans toute l'histoire de la marine d'un bateau qui soit allé jusqu'au sacrifice, aussi loin vers le sacrifice dans ce combat. Et il faut savoir que le Redoutable a été à deux doigts de prendre le Victory à un moment. Quand Nelson est tué, ça crée quand même un trouble important sur le bateau. Et le commandant Lucas a admirablement entraîné son personnel à l'abordage. Il a mis beaucoup d'hommes dans la mâture qui font un feu de mousquets et de grenades sur le pont du Victory et réussissent à dégager complètement ce pont. Donc l'ordre est donné avec beaucoup avec une grande maîtrise de monter à l'abordage du Victory. Et au moment même où les gens vont sauter à bord, il y a déjà deux ou trois marins qui sont passés, arrive le téméraire, un autre trois ponts anglais, avec ses caronades, qui va fusiller à bout portant toutes les équipes qui s'apprêtent à sauter et qui sont massacrées à ce moment-là. Donc le Victory est sauvé par l'arrivée du téméraire. Et c'est un combat extraordinaire. Bon, le bateau va être complètement déchiqueté. Et il va amener son pavillon. Il a plus personne de vaillant. C'est des morceaux de cadavres qui sont à bord. Les sabords sont rejoints par les boulets anglais ont complètement détruit tous les bordages entre les sabords. Il y a plus de. C'est quelque chose d'hallucinant. Et le bateau va couler dans la tempête la nuit suivante. Avec une grande partie de son équipage qui est resté à bord et qui va périr dans des conditions dramatiques. Donc il y aura 35 survivants sur le Redoutable.
Cette bataille de Trafalgar, ça dure combien de temps en règle générale ?
Mais ça dure.
On a l'impression que ça dure un temps fou.
Non, mais c'est pas très long. Les premiers coups, c'est vers 11h, 11h30. Les heures diffèrent un peu selon les. Et les derniers, vers 5h du soir, 5-6h du soir. Donc c'est un après-midi. En gros, ça dure un après-midi. Avec des conséquences très tragiques le lendemain, parce que la tempête se déchaîne à ce moment-là. Ce qui fait que tous ces bateaux qui sont dans un état d'affaiblissement très grand, de destruction très grand, avec des équipages très éprouvés, vont avoir à lutter contre la tempête. Et les bateaux vaincus, évidemment, luttent moins bien que les bateaux vainqueurs. Mais ça va permettre aussi à certains vaisseaux français, et surtout français et espagnols aussi, de se libérer de l'équipe de prise anglaise, en leur disant, si vous voulez qu'on participe au sauvetage du bateau, eh bien, on vous fait prisonnier, autrement on vous laisse. Donc ça se passe comme ça, et le Bucentaure en particulier, le bateau de amiral français, se libère de son équipe de prise, réussit à rentrer jusqu'à Cadix, et malheureusement s'échoue sur des cailloux à l'entrée de Cadix, et sera perdu aussi. Mais il y a d'autres bateaux qui sont sauvés.
On en récupère combien à peu près ?
Il y a 5 vaisseaux français et 5 vaisseaux espagnols qui peuvent rentrer à Cadix.
Sur combien ?
Sur les 33 du début. Et d'autre part, il y a quatre vaisseaux français qui font partie de l'avant-garde, qui réussissent à s'échapper vers le large, mais qui seront rejoints quelques jours plus tard et qui seront pris à cours d'une autre bataille.
Bien, nous en étions donc au navire qui s'était échoué, et donc la perte de tous ces navires français et espagnols. Et les Anglais, dans ces cas-là, est-ce qu'ils ont perdu quelque chose?
Les Anglais n'ont rien perdu. C'est navrant, mais il faut bien le dire. Il y a des légendes en courue disant que les Anglais qui cachent toujours leurs pertes ont en fait perdu des bateaux. Mais c'est complètement faux. Non, ils n'ont rien perdu. Et c'est à mettre à leur honneur, à leur capacité de lutter contre les voies d'eau, contre les incendies. Ce sont des gens qui ont l'habitude, encore une fois, de tenir la mer très longtemps. En plus, ils sont vainqueurs, donc ils ont un moral d'acier. Et ils se battent mieux qu'un équipage français ou espagnol qui vient de subir la défaite, qui a des dizaines ou des centaines de blessés à bord que l'on est en train de soigner. Alors que les pertes anglaises sont dix fois plus faibles. Donc les Anglais s'en tirent et ne perdent aucun vaisseau. Leurs 27 vaisseaux rentrent au port.
Mais ils n'ont plus Nelson.
Ils ont perdu Nelson, effectivement.
Ils ont perdu Nelson. Alors pourquoi chez eux, bon, que l'on ait perdu et que cela ait influencé le moral des équipages et le moral de la marine, finalement, française, pourquoi chez les Anglais, il y a eu une espèce de mythe où on fête Trafalgar tous les ans, si j'ai bien compris. Pourquoi chez eux, ça a une telle aura?
Pour les Anglais, je pense que ce qui est important dans Trafalgar, c'est la mort de Nelson. C'est la gloire de Nelson, la mort glorieuse, cette espèce d'apothéose. Il y a des tableaux extraordinaires qui montrent Nelson emporté aux cieux, pratiquement comme un saint. Donc c'est très fort, c'est la mort de Nelson qui compte pour eux beaucoup plus que la victoire elle-même. Donc ça, je crois que c'est clair, oui.
Mais ça perdure même maintenant.
Et ça perdure maintenant. Alors, il y a des manifestations chaque année, à l'anniversaire de Trafalgar, qui sont suivies religieusement, on peut dire religieusement, c'est tout à fait ça, surtout dans toutes les unités de la marine anglaise. Et on fête cet anniversaire avec un certain nombre de légendes qui sont créées autour de Nelson. Vous entendrez encore, il y a beaucoup d'Anglais qui pensent que c'est Nelson et la bataille de Trafalgar qui a sauvé l'Angleterre de l'invasion. Alors nous avons vu qu'il n'en était rien. Napoléon avait abandonné son grand dessein avant Trafalgar, donc c'est pas ça. Vous entendrez dire aussi souvent que Nelson a complètement surpris les Français par sa tactique novatrice extraordinaire d'attaquer en colonne une ligne de file, alors que la chose était pratiquée déjà pendant la guerre d'indépendance, depuis dans les guerres de la Révolution, et surtout que l'amiral français s'attendait très exactement à cette attaque. Il aurait été surpris par une autre attaque, donc il n'y a pas eu la moindre surprise. Donc ça, ce sont des choses qui sont restées un peu folkloriques dans l'imaginaire anglais, cette gloire de Nelson. Alors Nelson, c'est un homme qui est un fantastique meneur d'hommes, ça on ne peut pas lui enlever, un très grand tacticien. Par contre, sur le plan stratégique, il est toujours à côté de la plaque, il part toujours du mauvais côté. Donc, dans cette campagne de Trafalgar, et il perd un mois en Méditerranée avant de poursuivre Villeneuve, par exemple. Une très grosse erreur. Il part aux Antilles alors qu'il aurait été plus judicieux d'aller à l'entrée de la Manche, comme font ses collègues anglais dans ces cas-là. Mais c'est un chien de chasse qui court après un lévrier qui court après son adversaire. Quoi qu'il arrive, sans beaucoup de discernement stratégique. Et puis, ce qui nous le rend très difficilement aimable pour nous, c'est qu'il a une haine absolument farouche pour les Français, une haine viscérale qui vient, semble-t-il, de sa famille, puisque quand on lui demande... Il a perdu sa mère à 9 ans, et quand on lui demande ce dont il se souvient de sa mère, sa réponse est « elle haïssait les Français ». Donc, c'est pas très agréable pour nous. Et Nelson est le premier amiral, en fait, qui tranche avec la tradition antérieure où les amiraux des différents pays adverses se considéraient un peu comme des collègues, comme disait Latouche-Tréville. Et lorsque la paix revenait ou qu'on s'était fait prisonnier, il y avait des relations d'amitié, de camaraderie qui s'établissaient. Nelson, c'est le début de la guerre psychologique, de la guerre idéologique plus exactement. Donc il hait les Français pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses. Ce sont des mécréants, ce sont des révolutionnaires, donc ils ne méritent que la haine et il faut les détruire. Et donc, annihilate the enemy, annihilate, c'est son. Alors qu'avant, on voulait gagner une bataille, remplir sa mission, aux dépens de l'ennemi, bien sûr, mais on n'avait pas cette vision nelsonienne de la destruction de l'ennemi, aussi que l'on est. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Notre suffrain commençait déjà un petit peu ce genre de réflexion, mais à un niveau plus inférieur à celui-là. Mais Nelson, vraiment, on entre dans la guerre idéologique. C'est ça aussi qui ne me le rend pas particulièrement sympathique.
Il n'y a pas ça au niveau des amiraux français, cette haine des Anglais ?
Il y a une haine des Anglais, mais moins viscérale, je pense que...
Parce qu'on lit souvent, ce sont des gens, c'est une marine sans honneur... Sans foi, oui, ils sont très durs. Enfin, on voit les écrits de certains Espagnols, c'est très, ils sont très durs vis-à-vis de cette marine anglaise.
Oui, enfin, ils sont à la fois très durs et très admiratifs. Hein. Il y a les deux versants existent. Hein. Il y a des choses assez contradictoires, mais bien sûr, en temps de guerre, on essaye de tous les moyens sont bons pour affaiblir l'adversaire et pour l'injurier, etc. Mais je pense qu'il y avait pas cette haine aussi systématique, aussi profonde dans le sens français vers les Anglais et peut-être encore moins espagnol. Les Espagnols admiraient les Anglais dont ils avaient été les alliés entre 93 et 95. Donc je ne pense pas qu'il y avait le même degré de haine. Nelson, c'est un cas à part. Son second, qui est l'amiral Collingwood, par exemple, ne nous aime pas du tout, bien sûr, mais il a vis-à-vis de la France une attitude différente. Il écrit par exemple à ses filles, on a des lettres très touchantes à ses filles, en leur disant l'essentiel de ma lecture, c'est de la lecture française, apprenez cette langue, lisez les auteurs français, et lisez les auteurs espagnols aussi. Donc il y a un respect pour la culture de l'ennemi que n'a pas du tout Nelson.
D'accord.
Voilà, c'est un peu la différence.
Est-ce qu'on peut dire que Napoléon avait cette même haine avec les Anglais, comme Nelson
Oui, alors ça, je ne suis pas... suffisamment spécialiste de l'empereur pour vous répondre sur
ce
point.
Il y a certaines lettres de Napoléon qui les exècrent à certains moments.
Je pense qu'il les détestait assez radicalement aussi, mais avec quel degré par rapport à Nelson, je ne saurais pas me prononcer là-dessus.
Alors comment il voit justement cette défaite, Napoléon
Alors Napoléon, eh bien, il a une réaction tout à fait extraordinaire dans la mesure quand il rendra compte à la Chambre. À son retour en France, puisqu'il se trouve à ce moment-là à l'étranger, il dira il y a eu une rencontre qui a été imprudemment engagée par l'amiral Villeneuve et qui nous a causé, à la suite d'une tempête, nous a causé la perte de quelques vaisseaux. C'est à peu près la manière dont il rend compte de cet événement. Et d'ailleurs, une chose aussi, une autre légende qu'il faut détruire, c'est que Napoléon n'a pas du tout abandonné sa marine après Trafalgar. Certes, les gros budgets qui avaient précédé Trafalgar, il y a 2 années avec d'énormes budgets, double de la normale, vont retomber. L'effort va retomber, mais se maintenir à un niveau important. Et on voit au moment de l'apogée de l'Empire, avant la campagne de Russie en 1812, un renouveau encore des crédits qui montent et l'idée de l'empereur d'essayer à nouveau peut-être une invasion de l'Angleterre. On construit énormément de bateaux. On a plus de bateaux à la fin de l'Empire qu'au début. Ces bateaux sont construits en grande partie à Anvers. Donc des bateaux de 74 canons qui sont techniquement de beaux bateaux mais qui n'ont pas d'équipage. On n'a plus d'équipage à ce moment-là. Donc ils forment une flotte qui constitue une menace un peu théorique pour l'Angleterre mais qui l'oblige à l'Angleterre à continuer à construire elle-même des bateaux et à en tenir beaucoup à la mer pour surveiller nos ports. Mais c'est plus une marine vraiment opérationnelle que nous avons à ce moment-là.
Alors ce qui m'a intéressé, c'était le fait que vous n'avez pas travaillé tout seul dans votre coin. Vous vous êtes confronté aux chercheurs espagnols et aux chercheurs anglais. Alors quelles sont les différences entre ces trois pays et quelle est la vision de Trafalgar pour l'Espagne, pour les Anglais et pour les Français?
Oui, alors ça, j'ai tenu beaucoup à ne pas écrire une histoire franco-française et avoir le point de vue de nos alliés, d'une part, et de notre ennemi, de l'autre. Ça me semblait essentiel. Et j'ai eu une très grande chance, c'est qu'en 2002, j'ai été invité à un colloque à Cadix par les Espagnols, où j'étais le seul Français, d'ailleurs, à se trouver, le seul à avoir répondu à l'invitation. D'autres historiens n'avaient pas pu se libérer. Ce qui fait que je suis apparu pour les Anglais et les Espagnols comme le spécialiste français de Trafalgar, et que j'ai rencontré à cette occasion les principaux historiens anglais et les principaux historiens espagnols, et que on a beaucoup sympathisé à ce moment-là, et on a, pendant nos dernières années de travail qui nous restaient, c'est-à-dire les trois années qui venaient, on a travaillé avec une très très grande confiance, en s'échangeant des renseignements par mail, en s'envoyant des documentations. Les Espagnols ont été d'une générosité extraordinaire avec moi. Je suis revenu couvert de livres, de revues, de copies d'articles, etc. Mes recherches que j'ai faites à Madrid ont été facilitées d'une manière étonnante et très efficace. Donc j'ai pu avoir accès à des documents, des sources primaires espagnoles sur l'état de la flotte à l'appareillage avant Trafalgar, par exemple. J'ai des détails remarquablement précis grâce à cette aide espagnole. Et avec les Anglais, alors les Anglais sont moins généreux dans ces cas-là, mais j'ai quand même eu des amitiés qui se sont créées et des échanges. C'est un peu du donnant-donnant, mais on a échangé des renseignements par exemple sur les caronades dont je parlais tout à l'heure, qui sont ces canons très efficaces, ou sur les tactiques employées, ou sur le personnel. J'ai pu échanger beaucoup de renseignements avec Fruit, et cela a été essentiel, ce qui fait qu'on est parvenu petit à petit, alors qu'on partait de positions très différentes, à construire une histoire où on s'est mis d'accord sur les faits. C'est très important, même si l'interprétation que nous en faisons reste encore un peu divergente parfois. Et comme vous le disiez, la vision de Trafalgar dans les trois pays reste encore très fortement différenciée. Même pour les Français, c'est la catastrophe, c'est un drame, le drame inutile qui marque la fin d'une ambition française, etc. Pour les Anglais, c'est l'apothéose de Nelson pour l'essentiel. Et pour les Espagnols, alors ça c'est très très curieux, c'est quelque chose que j'ai découvert. Trafalgar est ce qu'ils appellent une gloriosa derrota, ce qui veut dire une défaite glorieuse. Autrement dit, ils ne retiennent de que l'exploit de leurs marins, que le courage, le sacrifice de leurs marins, et non pas du tout la défaite. Donc ils sont fiers de Trafalgar, ils s'en sont fiers à tel point que si vous allez dans une grande ville espagnole, vous trouverez toujours une avenida Trafalgar, une place à Trafalgar, et à Madrid même, vous avez un quartier entier qui s'appelle Trafalgar. Imaginez en France l'avenue Trafalgar à Paris. On ne peut pas. Donc c'est une vision complètement différente de la nôtre. C'est le sacrifice et la gloire de leurs marins qu'ils ont conservé. Et les marins français sont donc particulièrement dans une situation tragiquement d'infériorité par rapport aux Espagnols et aux Anglais. Les Anglais, bien sûr, ont des tombeaux magnifiques pour Nelson, la colonne de Trafalgar à Londres, le tombeau à l'église Saint-Paul, etc. Les Espagnols ont, pour Gravina, leur amiral, un magnifique tombeau au Panthéon des marins espagnols à Cadix, dans tout ça. Et nous, on n'a aucun souvenir des marins français morts à Trafalgar, des milliers de marins qui sont morts à Trafalgar ou après dans les prisons anglaises, ou après dans les prisons espagnoles, puisque les rescapés, les Salvatore rescapés, seront pris par les Espagnols lorsqu'ils se révolteront contre nous, et seront emmenés à Cabrera, dans la sinistre Cabrera, où ils vont mourir à 70%. Donc c'est un sort tragique. On ne sait même pas où est enterré l'amiral Villeneuve. Il n'y a pas de tombeau d'amiral Villeneuve, on ne sait pas. Il est mort à Rennes, il s'est suicidé à Rennes, mais on ne sait pas comment il s'est...
Il s'est suicidé à Rennes, mais oui. Peu de temps après Trafalgar, comment ça s'est passé?
Ça s'est passé, il a été donc prisonnier à Trafalgar, emmené en Angleterre, libéré sur parole au bout de quelques mois, et au mois d'avril, il rentre en France, il arrive à Morlaix, et il va jusqu'à Rennes, il s'arrête à Rennes dans une auberge, et là, il écrit à son ami, le ministre de la Marine, qui est toujours de Cré, pour lui demander... Son but, c'est de se justifier auprès de l'empereur, de dire... que sa conduite soit jugée, et qu'en espérant être qu'elle ne le sera pas trop sévèrement. Decret lui répond aimablement, mais en lui faisant comprendre que l'empereur ne tient pas à le voir pour l'instant. Et là, il y a une... Bien sûr, le suicide n'est pas prouvé scientifiquement, mais pour moi, c'est la version la plus probable. Et il meurt dans son auberge après s'être planté un couteau dans le cœur à 6 reprises, mais la dernière blessure est vraiment dans le cœur. Et après, il a des obsèques de première classe. La famille tient toujours les notes qu'il payait à cette occasion-là, les notes de l'auberge, etc. Mais on n'a aucune trace de l'enterrement du personnage, donc on ne sait pas où il est passé. Donc, mort misérable d'un homme qui était estimable, c'était quelqu'un de compétent, d'honnête, pas fait pour ce poste. Il aurait dû démissionner. Il a essayé de démissionner, d'ailleurs. Mmh. Il a essayé de démissionner après un premier appareillage malheureux de Toulon. Il y revient en disant que son escadre, qu'il n'est pas capable de faire quoi que ce soit avec cette escadre et qu'il demande à être relevé de son commandement. Mais cette demande n'est même pas transmise à Napoléon parce que son ami Decret veut le laisser en place et le réconforte. Et comme c'est un homme obéissant et passif, mm-hmm. il y va comme une sorte de mission qu'on lui impose. C'est un calvaire que suit Villeneuve. Il ira jusqu'au bout, jusqu'à la bataille. Malheureusement, s'il avait été tué à la bataille, ça aurait été beaucoup mieux pour son aura. Mais il n'a pas. Malgré tout son courage et toute la mitraille qui passe à côté de lui, il n'est pas touché. Il est indemne à la fin du combat et prisonnier.
Alors, dans vos recherches avec les Espagnols et les Anglais, quels sont les points communs entre les trois pays? Je veux dire, vous êtes d'accord? Et les points où il y a un désaccord total au niveau de ces recherches historiques?
Alors, je pense qu'il n'y a plus de désaccord total maintenant, puisqu'on a fait vraiment ce travail en commun, qu'on a échangé beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est les points qu'on a réussi un peu à rectifier les uns et les autres. Par exemple, les Anglais découvrent que Nelson n'a nullement surpris son adversaire, puisqu'on leur montre les textes disant que Villeneuve raconte la bataille avant qu'elle se soit déroulée. Donc ça, c'est des choses qui sont imparables. Donc il y a un certain nombre de choses de ce genre-là. Que les Espagnols finissent par comprendre. Les Espagnols avaient tendance à tout mettre sur le dos de Villeneuve, homme incompétent, incapable, etc. Et que malgré le courage des bateaux espagnols, comme ils étaient mal commandés, ils n'ont rien pu faire. Et là, l'étude qu'on fait en commun montre que ces bateaux, comme je le disais tout à l'heure, ces bateaux espagnols, pour une grande part, non seulement n'avaient aucun entraînement, mais étaient formés avec des équipages complètement de fortune, avec des bateaux qui avaient été carénés dans des conditions difficiles, avec un armement parfois insuffisant, et aucun entraînement surtout pour utiliser cet armement. Donc ils s'aperçoivent que c'était des bateaux qui étaient juste capables de naviguer et pas vraiment de combattre. Alors ça, ils ne pouvaient pas l'admettre avant. Maintenant, ce sont des choses qui sont passées dans les esprits. Pour les Français, nous, on a, vis-à-vis de nos alliés espagnols, on était très durs. Si vous lisez les livres français, les livres d'histoire français, on se plaint toujours de l'incapacité des Espagnols, du fait que leurs bateaux sont lents et retardent l'escadre, etc. Alors on s'aperçoit que dans le retour laborieux des Antilles et de l'escadre franco-espagnole, il y a des traînards, mais il y a un traînard français et 2 Espagnols. Donc les Espagnols ne sont pas les seuls. Et que quand on va de Cadix à Fort-de-France, les bateaux espagnols qui naviguent séparément arrivent en même temps, ou même quelques heures avant. Donc il n'y a pas de différence très sensible, comme tous les historiens français l'écrivaient avant, la lenteur des bateaux espagnols, etc. Donc il y a un certain nombre de faits qui sont rectifiés très, très nettement. Et les Anglais se rendent compte aussi d'un certain nombre de points sur les capacités françaises ou l'incapacité qu'ils n'avaient pas pris en compte. Ils prennent en compte de manière plus sérieuse les faiblesses de cette flotte. Ils avaient tendance à dire on a gagné à 27 contre 33, donc on était sans voir toujours les différences de force des bateaux. Les Anglais avaient 7 vaisseaux à trois ponts de première classe. Les Français n'en avaient aucun. Il n'y avait que 4 Espagnols de ce rang-là, dont 2 bateaux très incertains, très, très mal armés, très, très médiocres. Il y avait 2 vrais 3 ponts espagnols de qualité, qui sont d'ailleurs fort bien battus. Donc petit à petit, on a rapproché beaucoup de choses et on est arrivé, je vous dis, des conclusions assez voisines. Il y a eu des conférences finales qui ont eu lieu à Portsmouth, par exemple. Alors ce que je peux rajouter, c'est que l'enthousiasme pour Trafalgar a été immense en Angleterre, mais sans doute. L'événement a été précédé de ce que les Anglais ont appelé une Nelson Decade, c'est-à-dire que pendant 10 ans, ils ont quasiment au jour le jour repris la vie de Nelson jusqu'à Trafalgar, que les Espagnols ont écrit une douzaine de livres sur le sujet, donc avec l'esprit que j'indiquais tout à l'heure, et qu'en France, il y a eu 2 livres, le livre de Michel Battesti et le mien sur Trafalgar, que moi j'ai donné plusieurs conférences en Angleterre, 12 en Espagne et 2 ou 3 en France sur le sujet. Donc c'est encore un sujet tabou en France. Et la marine française, on tire les leçons. J'avais l'impression d'être le premier à tirer les leçons de Trafalgar dans la marine française.
C'est amusant, parce qu'on a l'impression que les Français associent, par exemple, Trafalgar avec, le sabordage de la flotte de Toulon pendant la guerre de 40, 40-45. On a l'impression qu'il y a cette même honte de la part des Français.
Il y a une sorte de malédiction qui pèserait sur la flotte française. C'est un peu un sentiment que l'on retrouve, où ça évoque aussi Marcel Kébir, des événements de ce genre-là, ou d'une flotte qui se trouve massacrée dans des conditions inégales et pour des motifs obscurs. Se battre contre des alliés à Marcel Kébir ou s'aborder sa flotte à Toulon, c'est pas glorieux, c'est même quelque chose de pénible. Donc il y a ce sentiment d'une malédiction qui pèserait sur les aventures maritimes de la France dans ces conditions-là. Et Trafalgar en étant le symbole le plus fort.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement, cette recherche sur Trafalgar ?
Et moi, ça m'a apporté beaucoup de... une réflexion sur l'intérêt pour la marine actuelle, la marine française de nos jours, de reprendre les études historiques qui ont été assez fortement abandonnées au cours des dernières dizaines d'années. J'ai été directeur des études de l'école de guerre française pendant 4 ans. Et la part de l'histoire, à cette époque-là, était assez minime. Et je me rends compte que les leçons de l'histoire demeurent. Et évidemment, il est très difficile. Il faut avoir beaucoup de précautions pour les prendre en compte, parce qu'il faut faire la part de ce qui a changé dans la marine, de toutes les techniques qui ont évolué de manière très importante. Donc il ne faut pas préparer, comme on a trop tendance à faire, la guerre d'hier ou d'avant-hier. Il faut voir l'avenir avec les moyens de l'avenir. Mais en revanche, il y a des choses qui ne bougent pas. La mer reste toujours la mer, un bateau reste toujours un bateau, les relations entre un commandant et son équipage restent les mêmes. Ça, c'est des constantes absolues. Et il est bon de méditer sur la façon dont nos amiraux de la guerre d'indépendance américaine, qui est une période faste pour nous, par exemple, avec De Grasse, Suffren, ces gens-là, se sont battus, et les relations qu'ils ont pu avoir avec leur capitaine, les problèmes de personnel, de logistique, tout ça reste valable. Il y a donc toujours des leçons importantes à tirer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai donné récemment une conférence sur les bateaux en tirant les leçons de la marine à voile de Louis XV à Napoléon, puisque c'est la période que je connais.
Très bien. Quels sont vos projets futurs ? Est-ce que vous avez envie de travailler sur une période un peu décalée par rapport à Trafalgar ? Quelles sont vos envies ?
Oui, j'aurais eu envie de travailler effectivement sur une période un peu décalée, d'avancer un petit peu dans le temps. Et puis, bon, il y a des problèmes d'éditeur. Il faut se mettre d'accord avec un éditeur, tomber d'accord sur un sujet. Et finalement, je vais rester dans ma période de prédilection en écrivant un livre sur le bailli de Suffren, qui était un amiral très, très célèbre de la guerre d'indépendance américaine, et qui est peut-être, parmi tous les amiraux français, celui que les anglo-saxons respectent le plus. Il est toujours cité avec le hollandais Ruyter, le français Suffren, le Nelson, évidemment. Donc parmi les très grands, les très grands amiraux. Et c'est peut-être le seul, bien que nous ayons aussi des amiraux de Louis XIV comme Tourville ou Duquesne, qui sont des gens de très grande valeur. Mais pour les anglo-saxons, c'est Suffren qui prime, semble-t-il. Parce qu'il avait justement cette hargne, cette obstination à détruire l'ennemi qui annonçait déjà les méthodes de Nelson. Malheureusement, il n'avait pas le même charisme pour le commandement. Et il ne s'entendait pas toujours très bien avec ses capitaines. C'est la faiblesse de Suffren que je suis en train d'étudier en ce moment.
Très bien. Mais écoutez, on se retrouvera pour la sortie de l'ouvrage.
Très volontiers.
Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère donc de bonnes recherches et une bonne écriture pour votre prochain ouvrage. Et puis qu'on se retrouve également pour parler de Suffren, qui avait navigué sur des chébecs.
Exactement.
Voilà.
Ce sera avec plaisir.
Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Monsieur Monac, et puis à très bientôt. Autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.